Avec ce nouveau livre de Daniel, nous avons tellement de choses à dire. C'est parti à cause de le contenu de Daniel. C'est aussi parce que il y a tellement d'histoires autour de Daniel. Donc, on peut, c'est vrai, commencer à le lire juste comme ça et il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. La première chose que nous pouvons dire donc de Daniel, c'est que ça se passe dans un pays étranger. C'est un petit peu comme Ézéchiel, où nous avons vu que ce n'est plus en Israël. On est plus là. Pourtant, on ne peut pas s'échapper. Nous sommes en Babylone et nous allons rester donc en Babylone. Daniel est peut-être surtout un prophète, et ça de la part de l'Éternel, mais il est dignitaire. Alors, à ceci, il faut que j'ajoute, dans la Bible hébreu, le livre de Daniel n'est pas mis parmi les prophètes. Alors, si vous voulez, la Bible hébreu, elle a trois divisions. Il y a la première partie, donc, qui est la loi. Puis, il y a les prophètes. Et puis, il y a les écritures. Daniel figure parmi les écritures, en fait, dans la Bible hébreu. Et ça nous étonne, parce que, enfin, nous, les chrétiens, parce que, on se dit, mais il a dit tellement de choses prophétiques. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont mis Daniel plutôt dans la division prophétique et non pas l'histoire? Et c'est parce que c'est Jésus qui fait référence à Daniel en tant que prophète, puisqu'il est notre maître. Donc on lui fait confiance ou il faut le placer dans la Bible. C'est le raisonnement derrière. Mais il faut dire que cet homme a fait énormément de choses. Alors, tout d'abord, on doit se poser la question, après tout, qui est Daniel? Et c'est une très bonne question. Est-ce que vous savez de quelle tribu il vient? C'est de Judas. Il est de Judas. Et ça, nous avons la réponse des versets 1 ou de notre livre. Lisons maintenant. Le troisième année du règne de Jehoiakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre les mains de Jehoiakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu, et les amena au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et il met des objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, le chef des eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de la race royale ou des familles dignitaires, des jeunes garçons, sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui on enseignerait les lettres et la langue chaldéenne. Sauté au verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les fils de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Donc, il est de la tribu de Juda. Alors, qu'est-ce que ça fait de lui? Ça fait de lui noble, en fait. Et ça, c'est important parce que nous avons affaire à quelqu'un qui a une certaine connaissance ou une certaine éducation, même habitude, donc, de la cour, de royauté. Ce n'est pas n'importe qui. À ceci, j'aimerais ajouter du fait que Daniel, quand il fut pris et amené à Babylone, il était jeune, très jeune en fait, et on pense qu'il avait entre 15 et peut-être à la limite 19 ans. Donc pas encore adulte. Qu'est-ce que veut dire son nom? Dieu est juge. Certains disent Dieu est mon juge. Si nous parlons d'un homme qui est pris par les Babyloniennes, nous sommes maintenant en plein justice de Dieu et de jugement de Dieu. Nous parlons encore d'un homme qui va affronter avec la vérité des hommes les plus puissants de son monde. Et encore plus, il sait qu'il a en réalité affaire à Dieu. C'est Dieu son boss. C'est Dieu le patron. C'est Dieu son juge. Passons maintenant aux choses un peu gênantes, parce que on a déjà lu, mais Daniel, en fait, il était eunuque. Alors, ça peut dire deux choses. Ça peut dire tout simplement qu'il était un dignitaire dans la cour. Ou ça peut dire aussi qu'il a été donc émasculé pour servir dans la cour. On aimerait penser que ça soit le premier, mais il y a beaucoup plus de raisons pour croire la deuxième chose. D'abord, parce que il y a une prophétie qui nous fait croire que c'est le cas en Ésaïe. On va le voir bientôt. Deuxièmement, c'est parce que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, était un homme capable d'énormément de cruauté. En fait, Sédécias, qui était le dernier roi régent de Juda, lorsqu'il a essayé de se sauver de ses ennemis, Nebuchadnezzar l'a attrapé dans la vallée de Jéricho. Il l'a ramené et il a tué tous ses fils devant ses yeux et puis il a crevé ses yeux. Et ça, nous avons dans le récit biblique. Il était un homme impitoyable. Alors pourquoi créer des eunuques? Parce que, encore une fois, ce sont des jeunes hommes. Et si entre guillemets, règle ce parti de leur vie, ils auront plus de chances, justement, à s'occuper des choses intellectuelles à laquelle ils étaient destinés. Et aussi, comme ça, ils ne posent pas problème pour la reine, pour les autres personnes. Finalement, ils sont plus dociles et donc c'est pour ça. Par contre, il est devenu aussi un conseiller dans la cour babylonienne et parmi les plus puissants. Mais avant tout, qui est Daniel? Jésus l'a dit. Il est prophète. Il est prophète pour l'Éternel. Il parle donc pour l'Éternel. Et ce qui est important à ajouter à ceci, c'est que nous définissions qu'est-ce que c'est la prophétie. Et là, en Apocalypse 19, nous avons une très belle définition, je crois, qui convient tout à fait avec Daniel. Et c'est en verset 10 d'Apocalypse 19, à la fin, il dit « Le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. » Et Daniel, il va nous parler beaucoup de Jésus. Alors, passons maintenant aux deuxièmes choses. Parce que nous entrons maintenant dans une période historique tellement chargée. Et pour bien comprendre les enjeux de Daniel, il est nécessaire pour nous de parler justement de cette histoire. Parce que cette histoire est une histoire qui touche un petit peu la nôtre et nous le savons simplement parce que Daniel nous dit dans une de ses prophéties. Alors pour ceci, il faut que nous parlions un petit peu de l'histoire babylonienne. La première chose donc à régler dans son mémoire, surtout si on veut voir des choses sur l'internet, si vous voulez, ou bien des choses au Louvre par exemple. Nous parlons non pas de l'Empire babylonien, mais le nom spécifique, c'est l'empire néo-babylonien. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que là, on parle de deux périodes totalement différentes de l'histoire. Bien sûr, les origines remontent à Babel. Donc, revoyons justement cette histoire, parce que c'est très important. Si vous voulez, c'est le commencement de cette nation, de ce groupe, groupement de peuples, de peuplades, si vous voulez. Et avec tout le monde, les origines sont tellement importantes pour comprendre la suite. Et là, nous avons cette histoire en Genèse. Et vous connaissez cette histoire. Alors, ce peuple, il commence à être très avancé dans le raisonnement. Tout le monde parlait une seule langue. Et dans leur raisonnement et dans leur capacité intellectuelle, ils commencent à savoir comment construire des grandes choses. Et ils se mettent ensemble pour construire donc un grand tour. On pose la question, pourquoi ce grand tour? Et c'est les archéologues qui nous disent pourquoi après, et les anthropologues et tout, parce que ils ont continué même après cette histoire de Babel. C'était pour étudier les astres. Parce que les Babyloniennes ont inventé quelque part cette forme d'astrologie que nous voyons des descendants très lointains aujourd'hui dans nos journaux, par exemple. C'est la même chose, si vous voulez, ces mêmes sources. Mais eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient construire un grand tour pour pouvoir toucher, si vous voulez, Dieu, pour être plus près, pour étudier, donc, l'astrologie, pour s'avancer dans l'art occulte de l'astrologie. Puis, Dieu, il détruit ça, il crée les langues, mais si vous voulez, ça, c'est le commencement de cet empire. Après, dans l'ancien empire babylonien, donc il y avait Nimrod qui s'est élevé en tant qu'homme. La Bible l'appelle comme un héros, mais ce mot est un peu ambigu, chasseur devant l'Éternel. Selon les traditions, on pense qu'il n'était pas chasseur devant l'Éternel dans le bon sens, mais plutôt, on pense qu'il était plutôt chasseur d'hommes ou chasseur d'âmes. Donc, un homme très poussé dans l'occulte, l'astrologie. C'est là aussi l'époque où on invente la religion mystère, dont les Grecs, les Romains sont inspirés, enfin tout ça, vous voyez. Et on a toutes ces choses en tête pour décrire donc la civilisation dans laquelle maintenant Daniel s'introduise. Ils ont écrit un système de droit très poussé. Ils étaient très avancés dans les sciences. Et leur religion, par contre, maintenant dans l'empire néo-babylonien, ça reste toujours polythéiste. Donc ils ont des dieux du ciel, de la lune, du soleil. Donc plusieurs dieux avec des histoires qui sont pas très loin de mythologie grecque, qui ont été adoptés et utilisés aussi par les Romains, bien sûr. L'astrologie joue un rôle important, ça c'est pourquoi l'astrologie est dénoncée sans ambiguïté dans le livre d'Ésaïe, et toujours cette religion mystère babylonienne, très en force. Mais la civilisation néo-babylonienne était très avancée dans les sciences. Ils avaient dans leur monde parmi les plus beaux structures. Merci. Les jardins suspendus de Babylone étaient parmi les plus belles, étaient parmi les sept merveilles du monde. Juste pour vous donner une idée de quoi ils étaient capables. Dans la cour, justement, de Nebuchadnezzar, ils avaient la clim. Mais ils venaient de voir un grand changement de pouvoir. On passe, et bon, je sais que les noms sont un peu bavards, mais on passe du roi Nabopolzar à son fils Nebuchadnezzar. Mais avant ça, en fait, il y avait une autre chose. En fait, le passage de pouvoir vient justement de se terminer ou de finaliser entre les Assyriens que juste avant, ils régnaient sur le monde, le monde connu. Alors, c'est très intéressant de voir comment ça s'est passé, parce que c'est vraiment d'un jour au lendemain. Or, ce qui s'est passé, c'est que le dernier roi d'Assyrie, donc je ne vais pas vous embêter avec son nom, qui est pratiquement imprononçable. Alors, il avait un régent dans la région babylonienne qui s'appelle Nabopolassar, qu'on a déjà désigné comme le père de Nebuchadnezzar. Alors, les Babyloniennes, en fait, étaient la seule province qui n'était pas assujettie ou qui ne se soumettait pas aux Assyriens. Et ils se sont souvent révoltés contre les Assyriens, mais ils n'avaient pas le pouvoir de faire quelque chose. Mais les Assyriens, parce qu'ils avaient tellement de respect pour les Babyloniennes, ils ont essayé d'acheter leur amitié et ils ont fait en sorte qu'ils soient prospères et justement pour acheter leur alliance, si vous voulez. Alors, quand ce roi assyrien meurt, Nabopolassar, il prend le dessus. Entre-temps, il agit vite avec les Mèdes pour ramasser une grande armée et il marche sur Ninive pendant que les Assyriens sont toujours dans la confusion, dans le deuil. Il écrase Ninive. Et en fait, les historiens disent que c'était tellement écrasé que plus tard, quand Alexandre vient pour marcher et faire ses conquêtes dans l'Orient, il fait le passage par Ninive parce qu'il voulait le voir. Il ne le reconnaissait même pas et il paraît qu'il passe au-dessus même sans rendre compte de ce que c'était. Ils étaient vite, ils étaient puissants et très important parce que juste avant que ça se passe, il y avait une grande bataille à Carchemish, donc qui est dans Turquie. C'est une bataille qui est mentionnée plusieurs fois dans la Bible. D'abord en 2 Chroniques et en 2 Rois, mais finalement aussi en Jérémie. Alors, cette bataille est extrêmement importante parce que c'est la dernière effort pour les Assyriens. Le lendemain de cette bataille, les Assyriens ne sont plus un pouvoir. Et encore plus, c'est là où ça touche la Bible, c'est que les Égyptiens viennent à l'aide donc des Assyriens. Et qui est le pharaon qui mène cette armée? Pharaon Necho. Est-ce que ça vous dit quelque chose? D'Israël qui sort justement d'empêcher Necho de faire cette marche contre les Babyloniennes. Et on va en parler dans une petite minute. Du coup, c'est la catastrophe pour Juda. C'est la catastrophe pour Égypte. Et après, comme disait Jérémie, après la bataille de Carchemish, les Égyptiens ne sont plus. Les Assyriens non plus. Un jour, un lendemain, Babylone, le nouveau chef. Entre-temps, Nabopolassar meurt. En fait, pour Carchemish, pour cette bataille, il envoie son fils Nebuchadnezzar. Et il lui donne des instructions. Après que tu en termines avec les autres, tu descends et tu règles des comptes avec Égypte et avec Juda. Alors, quand Nebuchadnezzar, il quitte donc la Turquie actuelle, Carchemish, vainqueur de cette bataille, il descend, vous voyez la carte, il descend, il passe par où? Par Juda, par Israël. C'est la première, donc, siège de Jérusalem, déportation. C'est là où Daniel est pris. Puis, il descend, donc, à Égypte. Quand il revient en Babylone, c'est là où il est couronné. Et vous voyez en quel... C'est là maintenant où nous entrons dans notre histoire. Du coup, Dieu élève un homme, une nation, comme ça, vraiment dans une seconde, avec une ou un seul but. Et le but, c'est donc le jugement décrété par l'Éternel bien avant. En fait, tellement étonnant était cette nouvelle que le prophète Habakkuk, il se plaint de toute cette injustice d'Israël et pourquoi le Seigneur, il laisse Israël continuer dans toutes ces choses qu'ils font, cette dégradation, ils ne respectent pas la loi. Et puis, je paraphrase, hein, l'Éternel dit à Habakkuk, en fait, je vais faire quelque chose que si tu le savais, tu le croirais jamais. Habakkuk, je paraphrase, il dit, dis-le-moi. Et l'Éternel dit, ok, je vais élever les Babyloniennes pour que je punisse mon peuple Israël par la main des Babyloniennes. Et quelle était la réponse d'Habakkuk? J'y crois pas. Parce que, voyez, tout ce que nous voulons de voir, c'est que Babylone représente quoi? Le mal, en fait. Babylone incarne le mal. Si on devait avoir deux places opposées, Jérusalem représente donc la paix, la loi de Dieu, tout ce qui est bien, tout ce qui est droit. Babylone représente donc le diable et tout ce qui est mauvais et mal. Et puis, Dieu utilise ces Babyloniennes pour punir, justement, les Israélites. Et ça était une chose radicale. Alors, il est temps maintenant de parler de l'autre côté, en ce qui concerne Juda. Alors, là aussi, il faut un peu de l'histoire, parce qu'il y avait quelque chose de très important qui s'est passé après le règne de Salomon, qui le sait. Il y avait une chose tellement important qui s'est passé dans le règne du fils de Salomon, donc Rehoboam. Ou, parce que Rehoboam était, bon, pour être gentil, pas aussi sage que son père. Donc tous les anciens du nord venaient et, en disant, mais Rehoboam, on ne peut pas continuer comme ça. Ton père nous a fait travailler dur. Et puis, Rehoboam, il a pris les conseils et puis il décide de les traiter durement. Alors, il y avait une grande division. Il y avait un royaume du nord qui s'appelle Israël, qui se compose de 10 tribus. Puis, il y avait un royaume du sud qui se compose de Benjamin et de Juda, et aussi des Lévites, parce que lorsque Jéroboam, donc c'est lui qui a pris le dessus dans le nord, il a créé son propre religion, semblable à la bonne religion. En fait, les Lévites qui étaient justes descendaient dans le sud, parce que dans le sud, on gardait effectivement la bonne religion. On protégeait le temple. Donc, on avait le vrai culte à l'Éternel et le temple. Dans le nord, il n'y avait même pas un seul bon roi qui servait l'Éternel. Pas un seul. Et c'est pour ça que le royaume du nord fut écrasé par les Assyriens. Alors, ce qui est absolument étonnant, c'est que l'essor des Assyriens correspond avec la déchéance israéliens. Les Assyriens montent en pouvoir au même moment que les Israéliens les Israélites descendent dans la moralité. Même chose, Dieu utilise justement les Assyriens pour punir le royaume du Nord. Mais dans le royaume du Sud, ils étaient assez protégés parce que à peu près la moitié de leurs rois dans le Sud étaient des bons rois. Des rois qui servaient l'Éternel de tout leur cœur. Ils étaient fidèles, mais pas tous. Et parce qu'il y avait justement des rois très décadents, luxueux et autres, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que les Assyriens descendent même dans le royaume de Juda. C'est comme Dieu leur donnait un goût de ce qui allait se passer. Ils ont dit, si vous voulez, c'est comme il a dit par la bouche des prophètes, écoutez Juda, ne vois-tu pas ce qui s'est passé avec tes frères dans le nord? Et aussi, quand les Assyriens ont pris les 10 tribus, il y avait beaucoup des gens fidèles de tous les 10 tribus qui sont descendus dans le sud, justement, grâce aux invitations d'Ézéchias, un bon roi de Juda. Alors Dieu a protégé donc tous les 12 tribus. Donc on ne parle pas des tribus perdues d'Israël. Non, Dieu les a protégés. Mais c'était pendant cette époque que finalement les Assyriens commencent à s'imposer. Ils pénètrent le royaume de Juda. Ils vont jusqu'à Jérusalem. Ils encerclent Jérusalem même. Et c'était pendant l'époque d'Ézéchias et aussi le prophète Ésaïe. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît. 2 Chroniques 32, verset 1. Après ces événements et ces actes d'infidélité, arriva Sennacherib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, assiégea la ville forte et ordonna de les forcer. Ézéchias, voyant que Sennacherib était venu et qu'il envisage d'attaquer Jérusalem, tint conseil et donc il commence à construire et de fortifier la ville. Il fortifie son pouvoir, il rend la ville forte. Alors, verset 9, après cela, Sennacherib, roi d'Assyrie, envoie ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était à Lachish avec tous ses bons. Et il envoie des menaces maintenant à Jérusalem et dit, bref, nous allons détruire la ville. Alors rendez-vous à nous. Et Ésaïe, le prophète, et Ézéchias rentrent dans le temple. Ils posent la lettre de menace dans le temple et ils prient l'Éternel. Et dans la nuit, verset 20, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier de ce sujet et crièrent vers le ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants héros, les commandants et les chefs. Alors le roi retourna dans son pays, la honte au front. Il entra dans la maison de son Dieu et là, ses propres fils le firent tomber par l'épée. C'est-à-dire pendant la nuit, parce qu'il a osé, justement, blasphémer l'Éternel, parce que Ézéchias et Ésaïe se sont humiliés pour prier et chercher l'Éternel. Dieu a renversé les choses. Il a envoyé un ange et il a enlevé la force, justement, de ces Assyriens. Il y avait beaucoup d'hommes tués dans la nuit à cause de ceci. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? D'abord, la puissance de la prière. Deuxièmement, le fait que n'importe qui, s'il se répande, donc il se tourne de ses péchés, il cherche l'Éternel l'écoute et le pardonne. C'est-à-dire, il y a espoir pour nous tous. La grâce de Dieu nous couvre. Alors, malheureusement pour Ézéchias, il ne restait pas sage pendant toute sa vie. Il fut guéri pendant cette période d'une grande maladie. Et une chose terrible s'est passée. Les Babyloniennes entendent, les Babyloniennes, rappelez-vous, qui sont très à cheval sur toute espèce de choses spirituelles qui se passent. Ils entendent tout ce qui se passe avec Ézéchias, il envoie des émissaires, des ambassadeurs, qui étaient en réalité des espions. Ézéchias lui montre tout. Et Ésaïe, quand il entend ce qui s'est passé, il est furieux. Et Ésaïe, il dit, « Qu'est-ce que tu as montré à ces gens ?» Il a dit tout. Alors, finalement, il dit, « Bah, quand, plus tard, les Babyloniens, ils vont revenir et ils vont enlever tout ce que tu viens de leur montrer. Il va même enlever tes fils et tes filles. Il va créer des eunuques à partir de tes propres fils. » Et là, c'est la prophétie dont on a évoqué tout à l'heure. Le temps passe. Et puis, pour rejoindre, on était avec Babylone. Le lendemain de cette bataille à Carchemish, bien sûr, tout le monde était au courant. Pharaon-Necho, il sort avec ses troupes. Et puis, Josias, le dernier bon roi de Juda, qui a eu beaucoup de succès, lui aussi, à son tour, il devient orgueilleux. Et il sort. Pharaon-Necho dit, tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi. Mais, chose bizarre, Josias voulait empêcher Pharaon-Necho parce qu'il était du côté des Babyloniens. Alors, Necho, il détruit l'armée de Juda. Josias meurt. Et avec lui, l'espérance pour Juda. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Dieu finit par juger Juda pour ses infidélités à sa parole. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le jugement? Il envoie effectivement des Babyloniens qui arrivent. Donc si vous êtes toujours en 2 Chroniques, si vous êtes en tournée en 36, qui arrivent donc pour la première fois, donc c'est quand Nebuchadnezzar, il descend. Ils arrivent pour la première fois en verset 9, où Jéhoiakim avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Vers le nouvel an, le roi Nebuchadnezzar lui fit amener à Babylone et tout ce qui était précieux de la maison. C'est là où Daniel fut pris. Encore pour vous donner l'idée. Plus tard, il va venir une autre fois. En fait, la prochaine partie, la plus grande prise de Jérusalem, là où la ville est détruite, c'est plus tard, c'est là où Ézéchiel fut pris. Juste pour vous donner une idée. Alors, pour combien d'années devait durer la déportation? Rappelez-vous, c'est une punition de la part de l'Éternel. Et selon le prophète Amos, l'Éternel ne fait rien sans avoir d'abord averti les prophètes. Alors, il a donc averti les prophètes qui ont averti le peuple. Donc, le peuple savait que ça allait tomber dessus, mais pour un temps spécifique. Combien d'années devait durer la déportation? 70 ans. 70 ans. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un le sait pourquoi? Ou pourquoi 70 ans? Parce que c'était une année pour chaque fois qu'ils ont ignoré l'année sabbatique. Donc chaque 7 ans, ils devaient avoir une année sabbatique où on fait reposer la terre. Et donc l'Éternel les a fait payer ces années sabbatiques. 70 en total. 70 ans, ils devaient rester en Babylone. Et deviner à peu près combien de temps cette règne ou cette hégémonie néo-babylonienne a duré. C'est facilement ça. Bon, on peut dire à peu près 100 ans. À peu près 100 ans. Vous voyez, c'est la même chose qui se reproduit avec les Assyriens. Dieu a élevé les Babyloniens et ils ont été puissants et au zénith vraiment de leur pouvoir. Juste pendant le temps que Dieu les a utilisés pour punir Israël. Et puis, il a passé aux Perses. Et pourquoi les Perses? Parce que Dieu avait un plan pour les Perses aussi, pour rebâtir le temple détruit par les Babyloniens. Fermons la page sur l'histoire. Mais maintenant, nous allons parler de cette influence. Parce que l'influence de Daniel est quand même extraordinaire. Et j'aimerais d'abord parler du côté un peu négatif, parce que je trouve marrant. Quelqu'un a dit que à l'époque de Daniel, il avait à craindre la fosse aux lions. Aujourd'hui, Daniel a aussi des gens à craindre, et ce sont des théologiens modernes. En fait, malheureusement, les théologiens dits libéraux ont beaucoup de choses à nous dire, et ça, ce n'est pas nouveau, ça. En fait, c'est à peu près 100 ans que ça dure. Ça a commencé avec les Allemands, avec la haute critique, et puis ça continue même aujourd'hui. Des gens qui ne veulent pas croire que Daniel est l'auteur de Daniel. Ils critiquent ce livre parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'il y ait un contenu prophétique. Donc ils n'acceptent pas que Dieu puisse dire des choses en avance. Justement, il y avait un de ces hommes qui, en voulant enlever de la Bible toute chose miraculeuse pour trouver véritables choses qui sont véritables dans la Bible, il s'est réduit à une simple page finalement, avec des choses qui n'étaient pas errantes à ses yeux. Alors donc, ils se mettent au-dessus de la Bible pour la critiquer, comme veut dire leur nom, la haute critique. Ils n'aiment pas non plus la diversité stylistique de Daniel. Ils disent que c'est impensable, par exemple, qu'un homme puisse écrire avec autant de styles, comme si il y a 2-3 000 ans, les gens étaient incapables d'imaginer plusieurs formes de littérature. Ce n'était que peut-être dans les gens comme Victor Hugo qui nous a appris ça. Je ne sais pas. C'est vrai, je me moque, mais c'est ce qu'ils disent. Ils aussi mettent en question la véracité de Daniel, parce qu'il y a 3 langues écrites dans ce livre. Donc l'hébreu, le perse ou l'araméen, et puis le grec. Bon, l'araméen, bon, ça c'est pas grave, parce que c'était le langage économique de son monde. Mais le grec, ils disent, pourquoi le grec? Ouais, parce que même à cette époque-là, les Grecs étaient des clients des Perses, et il y avait des échanges, et nous allons voir plus tard que Daniel avait des choses à dire concernant les Grecs. Alors, il faut dire que chacun, et je veux dire vraiment chacun de leurs critiques, ont été tous démentis par des théologiens conservateurs. Alors, il y a beaucoup de raisons pour croire que Daniel de la Bible est celui qui a écrit justement le livre. Juste, enfin, deux preuves que j'aime pas trop dépenser trop de temps en parlant des preuves, des choses qui sont déjà prouvées, mais juste 2 choses pour vous donner. Nous avons des preuves que Daniel était l'auteur parce que la traduction grecque de Daniel est apparue bien avant la personne ou les bien avant les événements décrits dans le livre de Daniel. Donc, et c'est important parce que eux ils disent que non, en fait, Daniel était écrit après par une autre personne qui a pris le nom de Daniel. C'est pour ça qu'il a pu écrire toutes ces choses. Mais si nous avons ces copies grecques qui existent bien avant, et encore plus, on est découverte dans les rouleaux de la mer Morte à Qumran, aussi un exemplaire de Daniel, toutes ces choses viennent avant les événements décrits en Daniel. C'est-à-dire que leur théorie qu'il y avait un autre homme qui a pris le nom de Daniel pour écrire un livre de Daniel après les événements, ça tombe à l'eau puisqu'il y a des preuves physiques qu'on a aujourd'hui de ce livre écrit en entier qui date avant les événements même. Et deuxièmement, à quoi ça sert d'écrire un livre sur un homme qui n'a jamais existé et de prendre son nom s'il n'a jamais existé? Vous voyez, une autre grande influence sur Daniel, c'est la grande influence qu'il a eue sur le cœur de 3 rois différents. Et ce ne sont pas des petits rois, ce sont des rois qui ont dirigé leur monde. Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant de son monde, Belshazzar, et Darius, le premier roi des Perses et des Mèdes. Alors, pas seulement ça, mais il faut dire que dans le livre d'Ézéchiel, on parle de Daniel comme un homme juste et un homme sage. On le décrit comme un homme juste en Ézéchiel 14:14, donc facile à retenir, Ézéchiel 14:14, un homme juste et un homme sage en Ézéchiel 28, verset 3. Et le dernier verset de chapitre 1 en Daniel, nous apprenons que Daniel a vécu jusqu'au règne de Cyrus. Et ce n'est pas une petite chose, parce qu'en Ésaïe 45, l'Éternel, c'est une prophétie incroyable. Des siècles avant sa naissance, l'Éternel nous donne le nom du roi perse qui va envoyer les Israélites de leur captivité pour reconstruire leur temple. Et ce nom est Cyrus. Et ça, c'est pourquoi Flavius Joseph, parmi d'autres, sont d'accord pour dire que c'est certainement Daniel qui avait déjà beaucoup d'influence dans la cour, était celui qui a justement montré ceci. On parle aussi, ça c'est plutôt la tradition, que même Alexandre était touché par les écrits de Daniel. Parce que lorsqu'ils ont rencontré donc les Grecs qui sont sortis pour montrer Alexandre tout ce qui était écrit, s'il n'y avait pas de Daniel, il est vraiment difficile d'imaginer qu'il puisse avoir des rois mages qui viennent de cette région-là. Daniel qui parle du Messie, Daniel qui a ses prophéties qui parlent de celui-là. Rappelez-vous, c'est qui sont les rois de l'astrologie? Les Babyloniens. Et enfin, nous avons Jésus qui, en Matthieu 24:15, cite la prophétie de Daniel et nous donne son nom. Et donc, finalement, pour fermer la parenthèse sur les autres critiques, franchement, si Jésus dit que c'est vrai, je me penche plutôt sur son point de vue.